Donc, bonjour, nous sommes à l'USAS, aux États généraux du documentaire. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Laurent Krief sur son documentaire « Instructions pour une prise d'armes ». Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la naissance du projet, comment ton film s'est préparé, qu'on commence comme ça.
Oui, alors c'est une question qu'on pose souvent et j'ai toujours du mal à y répondre parce qu'il faut que je rassemble un peu tout mettre en ordre un peu le processus. Ce que c'est que l'idée est arrivée plutôt soudainement l'été 2011, je pense. L'idée c'était de faire un film ayant pour titre, j'avais le titre d'abord, Il y aura eu des barricades, donc un titre au futur antérieur, et se projeter comme ça dans acter un futur qui aurait lieu, donc une partie de fiction où j'avais d'ailleurs écrit sous forme d'un scénario très détaillé ce qui nous attendait en Europe, en France, pour arriver finalement à une France totalement bloquée, une sorte de révolution, j'appelais ça comme ça, au même titre que le printemps arabe en fait. C'était un peu calquer ça en France et aller faire des micro-trottoirs, ce que j'ai fait énormément. Et énoncer ce scénario comme des faits, je leur demandais de jouer le jeu, donc il y avait tout un processus, une façon d'introduire ce texte que j'avais écrit pour justement y se mettre en condition, et on en venait finalement à parler d'aujourd'hui, quoi, de ce qui allait pas, et puis voilà, se projeter même physiquement, enfin ouais, dans le quotidien, en bas de chez eux, je leur disais voilà, c'est bloqué, vous voyez les affrontements, il y a des choses, voilà, vous pouvez plus aller au travail, pas de transport, que faites-vous? Et donc ça a pris beaucoup de temps et il n'en est rien resté en fait. Parce que après j'étais dans les quartiers populaires, après j'ai rencontré à Barbès beaucoup d'Algériens qui vendent les cigarettes. Pour ceux qui connaissent Barbès, quand on sort du métro, on est assailli comme ça pour acheter des Marlboro. Et là, ça a devenu quelque chose de... Ça a glissé finalement sur un terrain où il y avait énormément à faire et qui avait déjà été fait en tout cas par, en l'occurrence par Sylvain Georges, la question des peuples migrants et que moi je trouve très très bien fait et je me disais il n'y a pas nécessité finalement d'aller là-dedans et puis ça m'aurait engagé vers quelque chose comme ça en parallèle et... Il n'y avait plus le côté nécessaire, l'urgence que moi j'avais dans mon film. Bon, ça c'était une partie, et bien en même temps j'avais aussi, toujours dans cette idée de se projeter dans cette fiction-là de printemps européen, je ne sais pas, avec ce qui se passait en Grèce et Portugal, en Espagne, tout ça. Et j'avais l'intention de capter un maximum tout ce qui faisait office de parallaxe par rapport à l'ordre établi qui domine. Donc tout ce qui sortait un peu de ça, donc, que ce soit des rassemblements dans la rue, des manifestations, des choses écrites sur les murs, des choses qu'on entend, même à travers des livres qui me nourrissaient déjà avant et qui m'ont vraiment porté pour faire ce film et qui ont été un moteur, quoi. Au quotidien, dans la réflexion et dans l'engagement. Donc ça a été un tout, quoi, même des conférences, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est un peu long, enfin, je dis tout ça, finalement, il en reste très peu. Dans le film, on entend juste un moment des chants d'Algériens, quoi, à la fin du film, à deux reprises. Et à un moment, le titre « Instruction pour une prise d'armes », donc le travail de Blanqui lui-même, pour moi, a pris place dans le film, quoi, comme justement... Bah, Vu comment j'étais orienté à ce moment-là, pour moi c'est apparu assez évident et c'est devenu le titre, mais un titre contre lequel je me suis, comme je dis à l'issue des débats quand j'explique ça, je me suis un peu battu, où j'essaie de faire en sorte que les images aillent un peu contre ou que ce soit pas c'est un mot d'ordre, mais c'est pas le mien, c'est celui d'Auguste Blanqui, donc le film c'est pas c'est aller contre l'idée de qui dit instruction dit instructeur, donc quelqu'un qui aurait un modèle comme ça et un plan bien établi, ce qui était le cas de Blanqui en 48. Et voilà, donc aller un peu contre ça, c'était juste l'urgence de faire quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais ça va contre le vieux discours marxiste qui consiste à dire les événements là sont pas encore ceux qu'il faudrait. Nous ne sommes pas prêts, c'est pas le moment. Mais quand les temps seront venus, on fera telle ou telle chose. Donc, il y a la question du pouvoir. Hein, donc, au XXe siècle. Donc là, c'est l'inverse. Et ne pas savoir un peu où on va, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'urgence, c'est tout de suite voilà, faire. Bon, faire, ça peut vouloir dire aussi parfois ne rien faire, hein, se retirer, lire ou autre. Enfin, chacun avec son quotidien.
Tu peux rappeler en deux mots qui est Auguste Blanqui ?
Bah, Auguste Blanqui, pour résumer rapidement, parce que je n'ai pas la prétention de m'étendre là-dessus, mais c'est, Marx disait qu'à la Commune, il avait manqué une tête comme ça, ou quelque chose, une position de maître, quoi. Enfin, mais ce n'est pas ces mots-là qu'il employait, mais à la Commune, quoi. Il expliquait cet échec comme ça. Donc c'était Blanqui qui, lui, pendant la Commune, avait été arrêté la veille, quoi, donc qui était en prison. Et qui a passé 30 ans, si je m'abuse, en prison, et qui a laissé ce texte-là, puis bien d'autres. Voilà.
Donc ton film se découpe en trois parties, assez simplement, se déroule en fait avec des élèves ou des élèves ou des jeunes qui font partie de collèges ou d'une cité. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as rencontrés, dans quelle occasion, comment ça s'est passé?
Oui, alors comme il est très clairement indiqué, comme je l'ai mis en avant dans le film, je suis professeur de mathématiques, donc à l'époque dans Val-de-Marne, maintenant en Seine-Saint-Denis, donc c'est tout simplement des élèves qui étaient dans le même établissement dans lequel j'enseignais à ce moment-là. Voilà.
Alors, en fait, donc on parlait de ces trois parties. Moi, je trouve que la première partie est très puissante et très forte au niveau des images et des personnages. Et notamment sur toute la partie qui se déroule sous un tunnel. Je voulais que tu nous parles un petit peu de cette scène, de quelle manière vous l'avez décidée, est-ce que c'est toi qui l'avais prévue, ou est-ce que ce sont ces trois jeunes hommes qui te conduisent dans un lieu qu'ils connaissent. Voilà.
Alors, moi, je les ai conduits dans un lieu que je connaissais. Bon, c'est la Petite Ceinture à Paris. À un moment, l'idée, c'était donc... Le film est orienté par, comme je dis, par l'idée du communisme. Donc l'idée, au sens universel du terme, quoi. Donc ce qui va orienter tout sujet qui est un sujet d'un mouvement comme ça d'émancipation égalitaire, révolutionnaire par rapport à l'ordre établi. Donc quelque chose qui oriente comme ça, quelque chose... En effet, qui peut être très transcendantal, comme ça, qui est plus puissant que nous tous en tant que capacité de l'humanité tout entière, mais aussi l'idée, un sens de l'immanence, parce que l'idée, pour qu'elle existe, doit être incorporée, quoi. Donc il y a quelque chose qui est immanent du corps. Donc il y avait la question du corps, l'apparition du corps, le Dasein d'Heidegger, donc l'être-là. Donc pour moi, mettre ça en image, c'était... D'où la question du corps nu même, hein, donc il y a des corps et il n'y a que des corps et des langages, sinon il n'y a que des vérités, comme dit Badiou. Mais donc au début c'est les corps qui se présentent et qui apparaissent nus comme ça, et petit à petit il y a le texte qui arrive, il y a donc à travers la lumière qui les fait comme ça apparaître. Donc pour moi c'est commencer comme ça par un voyage initiatique au centre de la Terre. D'ailleurs j'ai mis dans le texte, dans le film, justement, un texte de Jean Rista, qui a écrit Le théâtre du ciel, une lecture de Rimbaud, où dedans il y a une partie où il revisite, sous forme d'alexandrin, en 20 tableaux, Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Qui est un texte à deux lectures, parce que il se trouve que le tunnel, c'est aussi, voilà, c'est la nuit, c'est une nuit, en fait, d'une partie. Une nuit de relation sexuelle entre deux hommes, et c'est aussi sous le modèle de l'histoire de Jules Verne. Et donc c'était cette initiation comme ça, petit à petit, la naissance d'un corps qui prend possession de ce texte, donc le texte qui arrive de manière comme ça transcendantale par moi, qui aurait complètement mis le texte de Rimbaud entre les mains, de façon matérielle comme ça.
Tu peux rappeler quel texte de Rimbaud?
Alors c'est une saison en enfer, et en particulier la partie mauvais sang. Donc moi je leur avais dit de choisir d'ailleurs, Parce que voilà, donc dans cette partie, il y a deux sous-parties. Il y a la partie comme ça, où moi, je voulais imager la rencontre avec le texte, le corps qui rencontre le texte, donc le langage, cette naissance-là, à travers la lumière, comme ça. Et après, bon, on sort de là, et après, ils sont dans l'enceinte du collège, donc entre les murs qui vont faire trembler, ils vont réellement, même physiquement, cracher contre les murs, les textes de Rimbaud, hein, donc... Cracher, là c'est plutôt au niveau de l'image, il ne crache pas véritablement, mais le texte, lui, il résonne contre les murs, il tape réellement contre les murs. Et donc cette partie, cette deuxième sous-partie dans l'enceinte du collège où ils sont devenus les nouveaux propriétaires du texte de Rimbaud et où moi je dis clairement que voilà, c'est une façon de remettre, pas l'ordre du jour, mais de faire vivre ce texte-là. Parce que Rimbaud, il y a toujours ce qui énervait beaucoup Aragon, d'ailleurs très tôt, dans les années 20, dans son traité du style, assimilé comme ça, figure au voyage, voilà, le beau Rimbaud. Et puis finalement, quand on fait, on redonne un corps quoi, à ce texte-là, ça dérange. En tout cas, la première séance, là, à l'USAS, au bout de 10 minutes, la moitié de la salle était partie et on n'en était que là, quoi. Donc j'ai pas la prétention de savoir pourquoi ils sont partis, hein, tu vois. Et puis moi ça me pose pas de problème, mais bon ça pose la question en tout cas, est-ce qu'il y a pas quelque part ce texte-là qui d'un coup est incorporé dans ces corps adolescents, quoi, corps révolutionnaire, corps adolescent. Pour moi c'était important, l'adolescent en tant qu'âge justement où il y aurait quelque chose de l'émancipation naturelle contre quoi l'institution se dresse à travers les murs de l'école, à travers... On essaie un peu de les orienter, de les adapter au monde tel qu'il est. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on risque de changer quoi que ce soit. Donc, c'était aller contre ça. Et voilà.
Moi, j'ai envie de réagir peut-être par rapport à ce que tu disais, qu'il y a une partie de la salle qui est partie à ce moment-là. Moi, personnellement, quand j'ai vu cette première partie, ce qui m'a gêné, c'est que bon, je vais voir un film documentaire. Je ne suis pas dans la fiction. Et c'est plutôt le rapport au réel, en fait, qui me posait problème. C'est d'imaginer un prof avec ses élèves qui sont à moitié nus. Et c'est cette position-là plutôt qui m'a dérangée que le texte.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des habitudes au niveau des formes, documentaire, fiction. Et lui, ça, c'est présent comme un festival documentaire. Ils ont pris mon film, donc c'est qu'ils assument ça. Marseille, c'est plus clair, parce que Marseille, c'est vrai. Je ne pense pas s'il y a eu moins de contestations à Marseille, ça vienne de là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu moins, parce qu'après, il parle de contestations, on reste assis, puis on est très énervé en sortant. Ils ont enlevé le mot documentaire. Mais bon, moi, je m'en fous, documentaire ou fiction, ça n'a pas de sens. Je fais un film, quoi, c'est tout. Donc, à ce moment-là, moi, je fais avec mon quotidien. Donc, quand j'ai l'idée d'avoir certains corps avec certains textes, je le fais. Donc, c'est vrai que certains étaient gênés, même l'utilisation des corps comme ça, nus avec un texte. Mise en scène, comme je dis un peu bêtement, quoi. Quand on fait jouer Spider-Man qui lance la toile d'Araignan, il ne demande pas est-ce qu'il a réellement lancé sa toile, est-ce que vraiment ils se sont accaparés du corps de Rimbaud, ce qui est le cas, mais même la partie de Platon qui dérange encore plus, quoi. Alors, en laissant passif, ils lisent le texte, mais enfin, disons qu'il y a des habitudes comme ça, mais c'est pas pour cela que ce soit des actes de vérité dans le cinéma. Donc moi, au niveau de la forme, également, j'essaie de perturber ça, parce que je pense que sans le cinéma est très jeune, il y a tout à faire. Donc oui, ça dérange. Donc c'est vrai que ça a été présenté à l'USAS par ceux qui l'ont sélectionné quand tout le monde est parti, pas la moitié est partie. Prise de parole de Pierre Rive, parler de cinéma d'inconfort, quoi. Donc comme je disais, l'inconfort, je veux bien, si à condition de qu'est-ce qu'on entend par le confort. Donc le confort qui serait une sorte de soit d'état de cynisme où on est dans conscience d'un monde et de jouir un peu comme ça de cette conscience-là, mais tout finalement en faisant tout le contraire de ce qu'on pourrait critiquer, ou même une forme de résignation, d'impuissance qui est réellement là, quoi. Donc après, moi, le cinéma, c'est aussi... pour moi, ça a été passer cet état d'impuissance à l'impossible, quoi, comme dit Lacan, contre tout état... comme cure à une asthénie comme ça dépressive, d'élever l'impuissance à l'impossible. Donc un impossible, c'est aller vers quelque chose qui n'est pas là maintenant, mais qui vers quoi on doit tendre et qui sera un jour possible. Hein, ça sera fait. Donc c'est aller un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a réellement dans le cinéma, il y a deux choses. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Mais bon, moi si je fais du cinéma, c'est pas pour faire comme ce qui se fait déjà. Mais ça c'est pour tout le monde pareil. Hein. Mais il y a par exemple, si on prend le tableau que j'aime beaucoup de Munch, Le Cri. On peut le cri, on peut représenter le cri, on peut filmer, on peut rendre sensible le cinéma. Le cinéma en général, on cherche à rendre sensible une certaine réalité, quoi. Il y a toujours l'idée de vérité, de réel comme ça. Et donc le réel, c'est pas forcément. Donc je passe un peu du coq à l'âne, mais le réel, c'est pas forcément. Se limite pas au monde matériel sensible. Hein. Donc moi, je considère qu'il y a énormément de réel dans mon film. Il est question que de ça, quoi. Donc on peut filmer en effet un réel ou même des cris. Donc c'est le cas de, on parle souvent de Sylvain Georges, qui est un ami. J'aime beaucoup son cinéma, mais Sylvain, lui représente, va filmer, va rendre sensible des cris. Donc en l'occurrence là, à Madrid, ce qui s'y passe. Et bon, moi, ce qui est différent, et je dis pas que c'est moi, mon film est un cri. Moi, c'est personnel. C'est-à-dire, j'ai pas prétention de montrer une adolescence, de montrer ou de à travers mon film, qui se crée un moment comme ça politique où je vais échanger mes images avec ceux des élèves, où les élèves vont s'approprier le processus. Alors maintenant, les images sont tournées par ceux qu'on filme, on fait un échange, et puis après la question vient, mais alors pourquoi le montage, c'est que le, parce qu'après du coup, alors le montage c'est quand même vous qui le faites au final, mais alors pourquoi le montage, ça serait pas, enfin bon, moi c'est pas du tout la question. C'est réellement, oui, c'est le cri en tant que tout le monde, que n'importe quelle personne qui à un moment, donc soit on va sur là, la place à Madrid ou autre. Bon, moi j'ai fait ce film là parce que en France, il n'y a pas encore de place occupée, mais moi, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc c'est deux choses comme ça, différentes. Voilà, alors je prends Sylvain, parce que Sylvain, dans sa manière de le faire cinéma, le faire du cinéma, c'est quelque chose qui a mis en place tout un processus chez moi. C'est-à-dire, quand j'ai vu il y a très longtemps, j'ai vu une partie de l'impossible, j'avais été le voir après on s'est vu à différentes reprises. Voilà, et moi, si à un moment j'ai fait un film, c'est parce que pour moi, chez Sylvain, il y avait une limite, il y avait quelque chose comme ça, mais une limite, c'est pas une critique que je fais, mais c'est évident que moi, si je fais quelque chose, c'est que ça sort de quelque chose qui est déjà là pour aller pour exprimer, qui est pour moi un manque, quoi. Voilà, et dans le cinéma, je pense qu'il y a que des manques, mais Godard parlait de lui et de Strop, justement, comme d'un cinéma où il disait qu'on n'a jamais pu faire les films à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire, quoi. Il y a toujours, déjà dans son cinéma, le rapport à une certaine mélancolie. Le cinéma, on peut dire même qu'il est mélancolique dans le sens où c'est juste une transcendance et des images transcendantales. Badiou parle de ça dans son éloge du théâtre, pour dire que le théâtre est entre la danse et le cinéma, parce que la danse est l'immanence des corps et le cinéma c'est la transcendance des images. Donc c'est la lumière qui projette des choses et c'est un objet fini, le film. Donc on en sort, on n'a plus l'expérience qu'on peut avoir dans le théâtre où il y a comme ça les corps qui sont réellement là. Mais je pense qu'il a raison là, Badiou, mais il y a aussi, on peut présenter aussi, je pense qu'il y a d'autres manières de présenter le film. Donc, ça parle, donc je vais passer directement à l'expérience du film. Je me disais ça ce matin en regardant une rétrospective sur un auteur tchèque, j'ai oublié le nom, d'ailleurs c'était remarquable. C'est un film pour lequel je décroche souvent, et souvent d'ailleurs les films je décroche, et on a chacun sa propre expérience, et il n'y a pas quelque chose de fini. Et donc moi, mon film, on me reproche aussi parfois de... que ça déborde, donc il y a trop de désir au pluriel, c'est assez massif, et certains, je pense, justement réagissent par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas une vision globale, totale du film. Alors que c'est que chez Sylvain, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même, finalement, une narration, enfin, un suivi comme ça, assez classique, pas dans sa position. À chaque fois, je fais attention, enfin, voilà, son cinéma est très important, j'aime beaucoup, et pour moi, c'est, il est vraiment dans une bonne position, mais il y a quelque chose qui se regarde comme ça, en effet, un objet fini, on n'a pas forcément le besoin de le voir deux, trois fois. Je dis pas non plus qu'un film doit être vu deux, trois fois. Mais en tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, justement, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon film, c'est, notamment la partie de Platon où on dit c'est un bloc, comme ça il y a un bloc. Alors il y a un certain mouvement en effet d'émancipation, c'est jeune dans les tunnels et puis Rimbaud dans l'établissement. Et puis alors d'un coup là, pouf, Platon, ils sont nus, ils récitent le texte et paf, c'est un peu lourd un bloc. Bon, on me dit ça. Enfin pour moi, c'est la partie la moins lourde, la plus légère, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce texte qui est présent, mais les images, la façon dont j'ai monté, dont j'ai mis les images, c'est... réellement une autonomie. J'ai jamais dit il va falloir et voir les images et écouter tout ce qui se dit. C'est-à-dire quand même, c'est toute une partie de la République de Platon de Badiou, donc c'est quand même très dense. Donc non seulement j'ai pas l'intention que tout le monde écoute ce qui se dit et comprenne ce qui se dit, mais en plus ni de voir ça et les images. Donc il y a Un film, on est, comme je disais, voilà, ce matin de la séance, on peut décrocher à tout moment, regarder que les images, regarder ailleurs, regarder le projecteur qui projette les choses, s'endormir un moment. Quand on voit des images, penser à quelque chose, moi, très souvent, il y a des films où je décroche, je me mets à penser par rapport à ce que, là, un plan que je viens de voir, moi, pour, dans le cinéma que je fais ou dans des choses. Bon, voilà, donc il y a réellement des expériences comme ça. Et un film peut être aussi un moment où on va prendre chacun des passages et amener des réflexions. Et si on, quand on va voir la deuxième fois, on va peut-être regarder un autre passage, en l'occurrence des parties qui pourraient ne pas être sous-titrées. Du coup, on va regarder que les textes, entendre la voix du tchèque qui parle. Et puis, pourquoi pas, la séance d'après, essayer de comprendre avec un casque ou autre, parce que ce matin, il y avait une traduction en direct, réellement le contenu de la chose. Donc, bon, là, il y a comme ça, laisser une possibilité de plusieurs entrées et... Et c'est vrai que c'est des habitudes qu'on n'a pas, mais ça ne veut pas dire que ces habitudes-là sont injustes et vraies.
Oui, bah justement, moi, par rapport à ce film, donc j'ai vu une première fois, je pense que j'étais surtout captée par les images. Et ensuite, quand je l'ai revu la deuxième fois, là, pour le coup, je me suis intéressée au son, aux paroles, parce que j'ai du mal à le regarder, tout en même temps, quoi. Et alors, justement, pour ce qui est de la troisième partie, moi, c'est la partie qui m'a le plus attirée, enfin, qui m'a... Et alors, justement, enfin, je pense que je suis arrivée voir ce film sans avoir lu les critiques ou enfin les synopsis qu'il y avait pour le festival. Et alors, je me posais même la question. J'avais l'impression que c'était une vraie discussion. Enfin, je connais pas bien le texte de Socrate. Et il y a des moments, bon, je me doutais qu'il était question d'un texte. Et en même temps, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a une parole, un échange, qu'on quitte le texte, quoi.
Bon, de toute façon, là, c'est les dialogues donc c'est Platon, c'est les dialogues de sa République, revus par Badiou. Donc, il y a vraiment un travail parce qu'on dit souvent Platon, il mettait les poètes, allez, bon, ça, c'est les leçons qu'on apprend comme ça au lycée, les poètes hors de la cité. Bon, ben, il utilisait lui-même la poésie dans ses dialogues, mais il y a vraiment un travail, sur le niveau du drame, enfin de l'écriture dramaturgique, quoi. Il y a réellement comme ça, et Badiou en joue beaucoup. Badiou, c'est quand même quelqu'un qui est du théâtre, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a un rapport très fort avec le théâtre, quoi. Il a écrit lui-même des pièces de théâtre, il est très présent. Autant Rancière, ça va être l'homme du sensible au niveau de l'image et de photo, cinéma en général, un peu la littérature, parce qu'il remet tout le temps devant la scène régulièrement Madame Bovary de Flaubert, il aime beaucoup ça. Badiou, lui, c'est réellement le théâtre, la musique aussi, parce qu'il a écrit un livre d'ailleurs qui est remarquable, qui est « Cinq leçons sur le cas Wagner ». Mais donc oui, déjà dans les textes, il y a en effet comme ça l'idée du dialogue. Donc puis surtout Badiou, donc réactualiser ça avec des petites formes parfois un peu maladroites, un peu lourdingues pour faire un peu comme aujourd'hui, mais bon, c'est assez léger. Et puis bon, moi après au niveau de l'image et du montage, j'essaie de travailler ça, de perturber ça, de créer des moments, des répétitions. C'est pas totalement fidèle au texte. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des répliques que je fais répéter plusieurs fois, ça s'arrête. Il y a même, bon, il y a un moment, peut-être que certains verront, je rajoute un truc, je fais un petit aparté avec BHL, mais bon, avec les sous-titres, ça aide un peu plus. Mais bon, il y a en effet une place, en effet, un semblant de dialogue, bien que, quand même, malgré tout, c'est quand même un texte, en effet, le texte du maître, quoi. La philosophie, c'est quand même le discours du maître, comme disait Lacan, en opposition au discours de l'université. Donc il y a toujours le maître. Après, il faut savoir ce qu'on en fait du maître, quoi, hein. Donc c'est là que aussi Rancière est très, très, très important dans sa notion de maître ignorant et de... Bon, voilà, c'est... pour moi, dans le cinéma, je pourrais avoir un maître avec... Enfin, comme avec Godard ou Straub, je une relation comme ça de maître dans mon travail, dans ce que... Mais je parle des principes qui sont réellement ignorants. D'ailleurs, même le présente comme ça, dans le sens où on ne sait pas encore ce qu'on va faire et on ne le saura jamais, quoi. Donc... c'est d'aller vers... je partais d'un principe, justement, qu'ils avaient ce sentiment de ne pas avoir réussi... pas avoir fait les films à la hauteur dans laquelle ils auraient espéré les faire. Donc c'est aussi essayer de faire d'aller toujours un peu plus loin dans des choses un peu nouvelles et de rendre toujours être plus près d'une certaine vérité, de certains réels, quoi. Donc
juste une question, quand tu dis on a mis des sous-titres, le film a été sous-titré, je comprends pas bien là. Tu as parlé de sous-titres là pour la diffusion ce matin.
Ah oui, ce matin, je parlais donc de non, ce matin, j'ai vu des fragments d'une œuvre tchécoslovaque Et
ton film n'a pas été sous-titré. D'un seul coup, j'ai eu une. Non. D'accord.
Enfin, okay. Mon film avait les sous-titres anglais parce que j'ai demandé s'il préférait les avoir ou ne pas les avoir. On m'a dit que c'est pas plus mal qu'ils y soient. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait.
D'accord. Et autrement, alors, du coup, on peut peut-être parler aussi de la deuxième partie. Je te laisse.
Alors, au milieu de ces deux parties qui sont en lien avec. Dans ton monde professionnel, il y a cette partie en Syrie où tu, comme une, alors ça peut être, je sais pas, comme une pause entre dans l'année scolaire ou je sais pas trop le ce que après, bien sûr qu'il y a un contenu, mais qui change radicalement de tonalité et d'ambiance en fait. Voilà, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, comment tu as choisi d'insérer cette scène? Cette partie entre les deux liée aux élèves que tu as pu rencontrer dans ton cadre professionnel.
Oui, donc c'est loin d'être une pause puisque c'était le quotidien quoi, qui se passait chez nous. Donc ce qui se passait en Syrie, le massacre, le départ, c'est quand même vraiment l'idée de la révolution. Hein. C'est quand même une manifestation pacifique hein, dans le même geste avec toutes les différences qu'il peut y avoir. Donc il y a quelque chose de singulier quand même à chaque pays, quoi, mais dans ce geste-là de ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc pour moi, c'était au quotidien, c'était pour moi, ça devait être là, déjà dès le départ même, quand je parlais de Yoré du Barricade, le printemps arabe devait être là, parce que c'était calqué. Donc calqué, c'est aussi physiquement mettre cette partie en plein milieu, comme ça, et bon, mais il n'y a rien de nouveau. Donc hier, j'étais au séminaire Le Peuple à l'image, ou je ne sais plus exactement quel est le titre. Moi, José Monzin parlait justement dans les cinémas un peu comme ça, sensibles à toute une idée de révolution. Finalement, ça finissait toujours sur la Palestine. Il y a toujours quelque chose comme ça, le corps nu comme ça, puis le désert. Et puis, oui, donc je dis Palestine, on parlait de Syrie, Palestine, parce qu'en fait, cette partie, finalement, le cœur de cette partie, on en vient tout le temps là. Et de toute façon, personne ne dira le contraire. Hein. Donc, c'était tourné au Liban, dans la Beka, qui fait la frontière avec la Syrie. Donc, les paysages qu'on voit, c'est quand même les montagnes syriennes. Et donc, c'est un entretien entre un père et un fils. Un père qui est au Liban et quelqu'un de très connu, puisque c'est un ancien journaliste qui passe régulièrement sur les plateaux télé, un spécialiste, un proche dans le sens au quotidien, il rencontre régulièrement des responsables même du Hezbollah, sans être lui-même du Hezbollah. C'est quelqu'un qui a l'initiative du mouvement laïque en Liban, donc quelqu'un vraiment qui a vraiment une parole comme ça qui éclaire pas mal sur la situation en Syrie. Et puis finalement, voilà, on en vient à dire que le problème c'est toujours ça, c'est la Palestine. Donc moi je dis c'est l'objet cause du désir. Donc d'ailleurs, je serais assez curieux. Zizek est un des philosophes que je lis régulièrement, travaille énormément sur Lacan. Et cet objet cause du désir, je ne l'ai jamais vu nulle part, justement, pour illustrer ça, parler de la Palestine. Mais c'est réellement ça, quoi. Finalement, on arrive toujours à cet espace qui justifie, finalement, quitte à toujours la déplacer un peu d'une situation à l'autre, mais qui justifie, finalement, une situation d'impasse qu'il y a, justement, en Syrie. Parce que dans cette partie, on voit qu'il est partagé entre un fait. C'est-à-dire que si Bachar tombe, c'est tout le monde arabe qui tombe. Parce que c'est un des derniers bastions, justement, de ce monde, de cette arabité. Alors, il explique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il dit quelque chose de très beau, c'est le joyau de la couronne. Bon, et à ce moment-là, je mets une fille en bikini. Alors, certains ne comprennent pas trop, mais bon, pour moi, c'était voilà, c'est le côté objet du désir. Donc, c'est voilà, comme je dis, j'ai mis la Palestine en bikini, mais ce n'est pas par mépris. Ouais, moi, je suis très sensible à ce qui se passe en Palestine. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qui est mis en image dans cette partie-là, que j'ai découvert en filmant. Donc, après, et en rencontrant, en discutant. Donc, j'ai 2 heures d'enregistrement et il en reste là, c'est ce passage-là. Parce qu'en fait, il parle aussi, c'est pas dans le film, l'histoire de la Syrie. Parce que moi, je voulais partir du lien, donc ce qui se passait en Syrie, et puis la partie dans la partie mauvais sang, il y a un texte qui a été choisi par les ados là, qui récitent, c'est pas trop le mot, j'aime pas réciter un côté scolaire, alors qu'ils récitent pas du tout, quoi. Ils le font vivre oralement, donc certains disent ils le slament. Bon, ça se finit toujours, j'entre au royaume de Cham, quoi. Il dit, bon, alors Cham, il faut savoir quand Rimbaud dit ça, Cham, c'est à la fois un descendant de Noé, donc c'est la descendance bannie et toute cette. Tout ce qui va suivre de Cham, c'est tous les gens qui comme ça qui sont mis à l'écart du foyer, quoi. Et en même temps, Cham, c'est la terre qui représente à la fois la Syrie et le Liban. Donc je voulais faire parler un peu ces personnes de ça, et puis la Syrie aujourd'hui, pour faire comme ça un pont entre Rimbaud et ce monde arabe. Et ensuite Rimbaud après où il est parti, mais c'était voilà, créer ce lien et puis rapprocher des choses, des distances que l'on crée. C'est-à-dire que souvent on dit, même dans mon travail, quand je parlais là, c'était des oreilles de barricade, on dit oui, mais bon, là, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, c'est quand même différent. Tu pars de la France, là-bas, ils avaient pas le droit à la presse, à la liberté d'opinion, il y avait vraiment une vraie misère. Alors qu'en France, quand même, on a Libération, on a l'Express, on a Le Point. Enfin bon. Moi, je pars du principe qu'en France, il y en a autant de raisons, sinon plus, dans le sens où, voilà, minimum, hein, petit ou supérieur ou égal, qu'au Printemps arabe. Il y a des singularités, bien sûr, mais il y a quelque chose quand même de commun dans le geste. Qu'on part du principe, personne n'aurait misé un copec sur ce qui s'est passé au Printemps arabe, quoi. Si autant chez nous, on dit que c'est pas trop possible, là-bas, ça l'était encore moins, quand même, hein, vu la répression qu'il y avait. Ça, c'est quand même fait. Donc, c'est toujours ce geste-là d'aller vers l'impossible. Et en France, en France ou en Europe. Donc c'était aussi pour rendre ça, pour calquer réellement, forcer les choses, quoi, mettre ça comme ça en plein milieu. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça pose forcément trop de problèmes, cette partie, j'ai l'impression, mais voilà.
Donc j'étais en train de me poser cette question en regardant la dernière partie, en écoutant plutôt la dernière partie du film sur le texte d'Alain Badiou, qui reprend un peu Platon. Donc je me posais la question par rapport à la révolution et à la manière dont elle peut se mettre en place. Dans votre discussion, donc si j'ai bien compris, parce que il faudrait que je l'envoie moi une troisième fois pour être plus clair par rapport à tout ça, mais je me pose la question s'il n'y a pas l'idée d'une certaine élite qui aurait un rôle avant-gardiste par rapport au peuple, pour les sensibiliser à l'idée de la vérité, enfin voilà.
Ces questions est récurrente, mais chez Badiou, il y a un oxymore un peu qui croise celle de Rancière, où il parle de maître ignorant, mais finalement ça se retrouve. Lui, il reprend quelque chose qui vient de Vitesse, du théâtre, de l'aristocratisme populaire, l'aristocratisme pour tous. C'est-à-dire, il est évident, donc l'idée du maître ou d'un discours qui vient d'en haut, comme ça, de manière transcendante, est à déconstruire, mais c'est pas pourtant qu'il faut pas oublier l'idée, quoi. Donc, il faut pas oublier le concept, et c'est là. Et quand on parle de maître ignorant, c'est aussi chez Rancière, c'est le tous capable. Chez Badiou, dans ce texte, c'est le tous philosophe. Donc, ce qui revient strictement au même. Quoi. Il y a toujours une position comme ça, une vision de Badiou un peu élitiste, aristo, qui n'aurait pas chez Rancière. Enfin, à ce niveau-là, c'est exactement pareil. C'est juste, je sais pas, c'est parce qu'il ne s'habille pas pareil. C'est, je sais pas, ou il y en a un qui est plus costaud, qui a des yeux un peu plus perçants, avec des cheveux plus blancs. Mais c'est assez incroyable, en tout cas, dans le cinéma, le rapport qu'il peut y avoir avec Badiou là-dessus. Or, attention, pour moi, Rancière est au moins aussi important que Badiou. Mais c'est que, en tout cas, Lussas, je vais parler plus de Badiou. Si j'étais dans un terrain conquis à Badiou, je parlerais sûrement plus de Rancière. Mais chez Badiou, ouais, il n'y a pas cette idée d'élite. L'élite, c'est en gros, si, mais c'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde, quoi. C'était donc dans le texte, c'est l'ange le gardien de la cité. C'est tout le monde doit être gardien, tout le monde doit être philosophe, travaux manuels, etc. Et voilà. Bon, après l'idée de révolution, bon, c'est la révolution, c'est Sylvain, Georges dit souvent ça aussi, mais bon, c'est vrai, c'est pas l'idée du grand soir, un jour, ce que je disais tout à l'heure, quoi, la vieille position marxiste, un jour ça va venir et puis tout va changer. C'est un processus qui est en route au quotidien. C'est tout geste qui va se soustraire à l'ordre dominant des choses, l'ordre établi, quoi. Donc après, c'est chacun. En tout cas moi, mais même j'espère personne, n'a de mot d'ordre, de manière de procéder ou autre. C'est déjà voilà, déconstruire un peu le monde, mieux le comprendre, mieux le rendre sensible et chercher à comprendre, quoi. Je lisais il n'y a pas longtemps l'introduction à l'esthétique et le beau de Hegel, et je crois que c'est à l'intérieur où il cite Schiller, je ne sais plus si c'est Schiller qui parle de l'ignorant, qui le fait de ne pas comprendre le monde, finalement, on devient possédé, quoi, quelque chose qui le dépasse, quoi, le monde. Donc le connaître, c'est aussi le prendre en main, quoi, c'est déjà le changer. Et puis après, il y a Zizek donne ça aussi comme exemple, quoi, de Lénine qui s'est, en 14, qui s'est barré trois ans, on l'a plus vu. Il s'est enfermé dans un chalet en Suisse, il a lu 3 ans, il a travaillé sur Hegel, bon, il est revenu, voilà, il a renversé l'Empire tsar. Donc je veux dire, voilà, il n'y a pas de... la révolution, c'est quelque chose qui a été mis en marche, voilà, qui est dans une continuité, en effet. Donc là, il y a le Gus Blanqui qui est présent dans mon film à travers le titre de son ouvrage, quoi, mais c'est dans une continuité comme ça, quoi. Alors après, il ne faut pas faire le cul de la continuité non plus, parce qu'on peut avoir ce discours-là, pas de lendemain qui chante, le grand soir, donc juste c'est comme ça, et puis pendant 300 ans, on y est encore, quoi. Donc moi, je parle réellement de l'urgence, quoi. Donc c'est pour ça que mon film, moi, je suis plus dans le cri que de montrer ce que d'autres rendent sensible. Parce que bon, aussi, il y a toujours une position, on a beau dire qu'une certaine travail sur la distance du cinéaste, je fais rendre sensible, je mets une certaine distance, etc. Mais vouloir rendre sensible, c'est aussi avoir une certaine position, je vais rendre... Enfin, je sais pas, chacun au quotidien est déjà sensible à pas mal de choses, mais on essaie en tout cas peut-être d'éclairer des choses qui ne le sont pas, de mettre en lumière des choses qui n'ont pas de visibilité, quoi, la part des sans-parts. Donc c'est le, ça, c'est un travail qui est fait par Georges, quoi. Et qui est remarquable en ça. Mais voilà, donc pas tomber non plus dans la position inverse, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il faut, quoi. Si demain, ça. Voilà, c'est. Il se passe un peu ce qui s'est passé le printemps arabe, moi, je serais très content, quoi. Enfin, voilà. Ces choses qui paraissent un peu impossibles.
Et alors, est-ce que tu peux, en deux mots, parce que j'ai quand même l'impression que ce que tu mets en avant à la fin, donc dans la troisième partie, c'est la dialectique. Est-ce que tu peux nous dire, en simplifiant, ce que tu entends par la dialectique ?
Ouais, je sais pas ce que j'entends par la dialectique, ouais, mais c'est toujours l'idée derrière de pas oublier dans l'idée la rendre sensible et puis l'idée de le concept, quoi. Donc il n'y a pas le concept d'un côté et les sensations de l'autre, il y a un peu le cerf qui se referme sur lui-même. Alors, c'est très hegelien de dire ça, mais il y a donc la nécessité de la nécessité de l'objet, quoi, étudier, donc donc oui, ne pas fuir des difficultés de concept ou autre, même dans l'échange, dans la discussion. Donc bon, après, ça, pas rentrer dans les détails là-dedans, mais même sur la forme, donc prendre l'habitude, mais ça c'est le travail en philosophie, de bien établir comme ça un discours, écouter l'autre et puis enchaîner par-dessus. Bon, c'est aussi aller, je réponds pas vraiment à la question, mais aller aussi contre toute l'habitude qu'on peut avoir, très formatée par les débats télévisés, on coupe la parole, où on essaie tout de suite de dire quelque chose plus fort que l'autre ou plus immédiat pour séduire quelque chose qui n'est pas là mais qui est censé être donc les auditeurs ou les téléspectateurs. Et on n'a pas l'habitude, plus l'habitude, et du coup ça se retrouve même dans des discussions qu'on peut avoir. À peine on commence, l'autre agit tout de suite par-dessus et bon, on ne s'écoute plus vraiment. Donc c'est prendre le temps comme ça d'aller jusqu'au bout des choses, donc les choses, l'objet, quoi, étudier, donc c'est de comprendre cette nécessité là donc après le sensible, il y a toujours quand on fait du sensible, même les objets d'art en général, ça vient de là, ça vient de l'esprit, c'est quelque chose qui le rend sensible, donc il y a quelque chose, toujours la pensée qui est là, donc il n'y a pas l'un d'un côté. Donc c'est aussi pour ça que Badiou, il y a quelque chose de plus immédiat là-dessus, plus présent, quoi. C'est pour ça que j'ai mis en avant là-dessus. Voilà, bon, c'est peut-être pas très clair ce que je dis par rapport à...
Non, moi, ce que je voulais juste dire, parce que ça me renvoie à ce que j'ai écouté là, de Michel Onfray récemment, par rapport à la dialectique, et qui serait peut-être quelque chose qui s'opposerait à une révolution qui se ferait plutôt dans la vie quotidienne, par l'action, en fait. Voilà, c'est ça plutôt que ça m'évoquait.
Oui, bon, de toute façon, même si je ne sais pas ce qu'il faut faire, ou les actions, chacun mène celles qu'il peut mener. Mais la question essentielle, c'est donc la position par rapport au pouvoir, quoi. Donc c'est se soustraire au pouvoir, soustraire au monde tel qu'il va. Un geste réellement de soustraction, puisqu'un geste de destruction, de lutte comme ça, frontale. C'est-à-dire que même dans les positions qu'on peut avoir, c'est toujours avoir une distance par rapport à ça, quoi, au pouvoir, quoi.
Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur l'objet du film, ton film, et la forme, puisque l'image est très, très belle, en général, sur l'ensemble du film. Et puis, tu alternes, en fait, des moments d'image fluide, des moments d'image très saturées, notamment quand ils sont sous le tunnel, et puis des images saccadées, des images prises par des portables. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de la forme et de l'alternance de ces images que l'on voit très fortement dans la première partie ?
Oui. Bon, comme j'ai dit dans une interview justement au Feed pour leur journal quotidien, il y a plus ou moins la même question. Je pars du principe, le film pour moi est réellement monté au montage. Ça paraît un peu bête, mais ce que je dis, mais... C'est qu'au début, pour moi, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas le noir, quoi. Et après, chaque chose et chaque morceau, pour moi, à égalité, même dans le processus justement de d'enregistrement, quoi. Donc que ce soit le son, l'image ou les, même le son en prise directe ou de la musique ou autre. Et donc j'essaie de travailler tout ça, et donc je frotte l'un contre l'autre, même le texte qui est même présent physiquement. Donc des fois on me dit aussi que mon film est surchargé de texte, mais dans mon travail moi, mais il déborde un peu trop dans le film. Bon, mais moi j'essaie aussi de le rendre présent, même en effet physiquement, il y est physiquement, soit parce qu'on l'entend, soit parce qu'on le voit même à l'image, quoi, les lettres. Alors ça me fait penser justement à l'introduction, certains sont un peu perturbés parce qu'on a un texte en allemand. En même temps, on voit les corps qui le lisent, qui le disent, et en même temps, on voit le texte en allemand à l'image, sans les sous-titres. Mais c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, la question n'est pas du sens, vraiment, ce qu'il y a derrière. Ça prend sens aussi dans le son de cette langue allemande. Donc c'est un extrait de Parsifal de Wagner. Dans le son, quoi, de la langue, et de le voir en image comme ça, c'est de pouvoir suivre même au niveau de la langue comme ça, écrite, quoi, de ces textes comme ça, d'ombre, de blanc et de noir, là, et de les lire et de l'entendre sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, quoi. Bon, après, s'il n'y a pas les sous-titres, je ne suis pas là non plus pour perturber. Après, ça prend sens un peu plus tard, à un moment, il y a le texte en français un peu plus loin.
Et même alors il y a aussi une particularité d'arrêter le son ou de faire des écrans noirs. Alors voilà, pareil, c'est des petites choses qui sont importantes, je trouve, dans le montage du film.
Alors ta question enchaîne bien avec la précédente, surtout l'objet même de ta question, parce que j'étais parti un peu ailleurs, je ne savais plus trop où on en était, donc on en était là. Donc ouais, je continue, donc on a tous ce matériel-là, son. Et... Donc moi après le but c'est de les frotter les unes contre les autres, quoi, réellement, pour faire éclater des moments de vérité, mettre en lumière des moments de vérité en présence. Donc s'il faut un moment que le son soit... soit pas synchrone, ou s'il doit se répéter, une image aussi, elle doit être saccadée ou mise un peu plus tard, le son arrive plus tard, ou parce que ça rend la chose plus vraie, plus bah, je le fais. Après, c'est pas par maniérisme, c'est pas par pour faire beau, c'est réellement parce que pour moi, ça va servir au plus juste ce qui est en train de se passer, quoi, au niveau du corps, du texte qui est là, qui est en présence, de ce que j'essaie de rendre un peu sensible comme ça. Donc c'est être au plus juste de mon intention, de ce que j'essaie de créer. Donc j'hésite pas, j'ai pas de code ni rien, sans, en dehors du fait que c'est vrai que j'ai aucune formation, on a tous une formation, mais je veux dire au sens institutionnel du terme, j'ai pas fait d'école, ni de fac, de ciné, ni de rien du tout. Donc après j'ai une formation en tant que cinéphile, enfin j'ai eu des moments, une longue période où c'était que ça, et je m'en suis défait, et puis là je reviens aux gens en faisant des films. Mais du coup, je me mets aucune limite. Après, les limites, c'est juste avec moi-même, donc des questions d'éthique ou de choses. Je sais très bien que je travaille des choses sensibles. Donc, si on revient tout le temps, donc le corps, l'idée du communisme, Wagner, oulala, mon Dieu, le corps, c'est ses élèves. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent. Mais en même temps, tout ça, c'est quand même assez déconstruit, mais c'est pas de manière comme ça évidente. Donc, j'essaie de mettre en avant des choses qu'on voudrait tenir à l'écart, quoi, une attitude de peur, en fait. Mais bon, la peur, c'est un peu l'affect qui domine aujourd'hui pour aller vers le monde tel qu'il est, quoi. Donc, alors que justement, il manque un peu de courage, qui est la principale vertu dans tout processus comme ça d'émancipation, quoi. Donc, Wagner, c'est aussi... Je me fais moi-même les questions, je sais pas... Mais c'est important, donc je le dis, mais c'est-à-dire que... Wagner, il y avait réellement chez lui une intention comme ça, on peut dire le terme proto-fasciste, même de mystification, le mythe de la nation allemande à travers le corps, l'esthétisation du politique, quoi. Donc l'idée du grand art qu'il voulait faire, et cette idée-là est bonne, quoi. Lui, Badiou, il dit, il sent comme ça qu'on est à un moment, à l'aube d'un renouveau du grand art, justement cette période intervallaire entre ce qui s'est passé, et là on sait plus trop où on est, enfin on nous dit que le monde qui est dans lequel on vit maintenant est le meilleur comme étant le moins pire de tous, quoi, donc voilà. On est à ce renouvelable. Donc la question du grand art est essentielle. Après, moi, je renvoie à tout cinéaste ou de lire les cinq leçons sur le cas de Wagner de Badiou, qui est vraiment un petit bijou et qui apporte énormément même au cinéma. Et donc, dans Wagner, il y avait cette intention-là. Il y a des choses qui nous sont utiles maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des... Mais c'est tout bête, hein. C'est comme ceux qui voulaient discréditer complètement Heidegger parce qu'il a eu des accointances avec... Enfin, chez Heidegger, il y a des choses, bien évidemment, intéressantes, quoi. Le mot est trop faible, mais Bon, voilà, c'est toujours la vieille question. Mais je crois que derrière, il y a toujours cette question de peur. Même, quelqu'un me disait à la sortie du film, non, mais moi, j'ai pas de problème, je suis communiste. On va prouver ce que ça veut dire être communiste. Mais voilà, Wagner, pourquoi Wagner, quand on sait. Et puis, la question du grand art, ça fait peur, parce que le grand, non, mais le grand, faut pas avoir peur du grand, quoi. C'est l'idée du total, de totalisant, d'avoir quelque chose comme ça, d'assez fermé. Sachant que Wagner, ce qui faisait peur aussi, c'était le côté d'ouverture, l'ouverture aux masses, chez Lacou, la Barthes. Enfin, c'est faire l'hypothèse de confiance. Donc, alors, les gens ont des problèmes avec ça, mais finalement, ils se cachent derrière Rancière. Mais Rancière, c'est super radical, quoi. C'est limite, il est beaucoup plus punk que Badiou. Enfin, quand il dit que faire l'hypothèse du communisme, c'est faire l'hypothèse de la confiance. C'est quand même extrêmement radical, quoi. C'est la capacité de tous, la confiance, et aller contre cette idée de peur. Bon, oui, il y a eu des choses terribles qui se sont passées, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas aller de l'avant, quoi. Je sais pas.
Moi, j'ai envie de revenir un peu au réel et donc à la manière dont ça s'est. Comment tu as travaillé avec les jeunes ?
Je sais pas le rapport avec le réel, mais oui, tu veux dire concrètement, voilà, avec les jeunes. Oui, alors concrètement, donc pour la partie, pour le travail sur Rimbaud, vu que je voulais que le texte comme ça prenne forme au niveau du langage, j'étais vers. Il y a un atelier de rap dans l'établissement où j'étais. J'étais vers des rappeurs, quoi. Ça me semblait, non pas que je voulais que le texte soit rappé, mais une aisance, un rapport au texte comme ça, un peu plus libre, un peu plus. En plus, il se trouve que c'est pas les meilleurs élèves qui sont là-bas, donc ça m'intéressait aussi à ce niveau-là, quoi. Mais c'était pas l'objectif premier. Donc j'ai présenté ça un peu à l'ensemble du groupe. Et puis bon, après on s'est vu régulièrement. Bon, très vite, il y a eu que trois personnes, quoi, qui se sont emparées de la chose, quoi, parce que finalement ils se filmaient régulièrement. Eux-mêmes avec leur téléphone portable dans le collège, en train de façon sauvage, hein, cachée. Les profs ne savaient pas ce que je faisais, ils l'ont capté. De toute façon, le téléphone était interdit, ils n'avaient pas l'autorisation, un moment spécial, allez-y. Je pense que ça se voit dans le film. Il y avait juste, comme il faut l'autorisation des droits à l'image, il y a un papier que j'ai distribué, donc le chef d'établissement savait plus ou moins ce que je faisais. Mais bon, voilà, et puis bon, je suis peut-être bien tombé, je crois aussi. Il y avait une confiance comme ça avec ce chef d'établissement-là, qui, je crois, est un peu en minorité dans sa façon de travailler, mais. Par rapport à l'ensemble des chefs d'établissement. Et donc, ça s'est fait comme ça, de manière où chaque semaine, je récoltais leurs images, en fait. Donc, ils se filmaient comme ça, de manière sauvage, voilà où on en était. Et moi, je récoltais leurs images et je réagissais en tant que spectateur de bas. Je voyais ça, il y avait des choses que je trouvais très fortes et que je voyais. Et donc, les idées de mise en scène qu'ils pouvaient avoir, que je pouvais voir, ça venait vraiment d'eux. Alors, parfois, j'aiguillais, mais pas en tant que je veux qu'il y ait ça. Je voyais ça, je dis, putain, ça, c'est canon, ou c'est canon. Enfin, ça prend forme, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de vrai là-dedans, enfin, par rapport au texte. Donc, c'est d'exploiter ça ou ça. Bon, finalement, c'est jamais vraiment ce que je voulais a priori, mais finalement, au final, c'était toujours quelque chose d'assez fort. Donc, j'ai énormément d'images, et après, bon, là, au montage, j'ai un peu changé tout ça. Et après, c'est en fin d'année, j'ai voulu les amener, voilà, sur la petite ceinture, parce que j'avais cette idée en tête. Et donc, là, la petite ceinture, en fait, j'étais derrière eux, quoi, je les guidais. Bon, maintenant, c'est une voie de chemin de fer, donc bon, c'est pas bien compliqué, leur dire droite, gauche. Donc moi, j'étais juste derrière et eux, ils étaient trois ou deux. Dans les images, ils sont tout le temps trois, mais parfois, ils étaient que deux. Donc après, au montage, s'il y a une personne, c'est plus dur de la faire venir. C'est la plus présente. C'est la seule personne que j'ai jamais eu comme élève, d'ailleurs. Donc c'est qu'il y a aussi une petite parenthèse, cette question, le rapport maître-élève. Enfin voilà, je suis leur professeur, donc le réalisateur. Donc c'est ce que, bon, ça, c'est un an, peut-être qu'on y reviendra après, sinon je vais me perdre. Et moi, je suis derrière leur caméra et je filme. Voilà, eux, ils oublient totalement le truc parce qu'ils font leur... Enfin, je pense qu'ils n'oublient pas tout à fait, c'est-à-dire que même dans leur façon d'oublier, d'avoir leur propre conversation et de faire les cons dans le sens où l'idiot dans le sens où une certaine liberté de mouvement comme ça, il y a quand même, je pense, toujours l'idée qu'on est filmé et peut-être même encourage à une certaine liberté, peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que moi, je savais qu'à un moment, il y avait des piles de lumière, donc je les ai orientés vers là-bas, donc il y avait des plans où je suis loin, où ils avancent sans moi, mais voilà, moi, je leur disais pas plus que ça, quoi. Et c'est vrai que cette scène, en effet, qui marque beaucoup. On a l'impression qu'il prend sa douche sous un puits de lumière, là, Dolly. Ça, c'est vraiment un pur hasard de tournage. C'est-à-dire que lui, il savait même pas que je le filmais. Après, quand il avait vu les premières moutures, quoi, j'avais même pas capté. Et en effet, parce que les autres discutaient à droite. Moi, j'étais avec un ami à moi qui connaît très bien la petite ceinture, parce qu'il m'avait amené une fois un photographe qui a fait un gros travail là-dessus, Joanne Petit. Donc, j'avais besoin, la première fois qu'il vienne avec moi, parce que je savais plus trop où y aller, ce machin, parce que ça peut être un labyrinthe à l'intérieur, quand même. Et donc voilà, et lui, il s'amusait avec la poussière. Donc moi, j'étais là, je filmais, tout simplement, quoi. Bon, c'est que ça prend beaucoup de place, du coup, dans le film, parce qu'il y avait pour moi quelque chose qui, entre la lumière sur le corps, il y a quelque chose comme ça qui prend place.
Et la dernière partie ?
La dernière partie, ça s'est fait très vite. Alors déjà, c'est fait en une seule journée de montage éprouvante, parce qu'il y a eu pas mal de prises. Il y a beaucoup de sources d'images. Quasiment chaque protagoniste a un téléphone portable, dans ceux qui ne récitent pas le texte. Alors on me dit souvent que ces corps-là, justement, sont passifs, ils sont derrière, ils sont couchés. En plus, ils sont noirs. Et ceux qui lisent le texte, ils sont blancs et ils lisent. Enfin, pour moi, finalement, les plus passifs, c'est plus les... À aucun moment, j'ai voulu qu'il y ait des noirs à un endroit, des blancs, ça s'est fait comme ça. Eux, dans la façon dont ils sont couchés, donc moi, dans le montage, où je mets vraiment en présence, moi, ils souffrent, ils regardent ailleurs, ou ils sont quand même beaucoup plus actifs. Ce texte, il les emmerde, c'est une journée de tournage qui est un peu... C'était un peu éprouvante pour tout le monde, mais ça a été un rapport de confiance, en effet, qui est plus facile parce que je suis leur professeur et parce qu'il se trouve que je suis pas réellement ce qu'on peut appeler un prof impopulaire dans mon collège. Je suis pas en train de dire que... Mais, donc il y a des choses qui se font comme ça, mais ça n'a pas été évident quand même de libérer une journée. Et les trois autres, ceux qui réellement travaillent avec le texte de Badiou, j'avais eu l'intention à un moment, je leur avais filé le texte, parce que alors, pour le coup, c'est réellement des élèves, ce qu'on appelle de bons élèves, quoi, dans le sens vraiment... sens scolaire du terme, quoi. Et de très, très, très bon. Mais en même temps, du coup, il y a quelque chose, une certaine. Quand on a une certaine confiance, on peut créer, oser des choses que d'autres n'osent pas. Et eux, ils avaient quelque chose qui peut. Assez d'intéressant dans le rapport aux choses qu'on peut leur présenter. Moi, je fais une parenthèse, mais je dis souvent chez les profs, il y a toujours quatre catégories de rapport à l'élève, quoi. Il y a l'élève idéal d'un professeur, souvent, c'est un peu l'élève qui est mauvais au départ et qui, à la fin, a progressé. Et du coup. Le professeur ressent un peu cette transmission de savoir que lui avait, l'autre l'a bien reçu, il a progressé grâce à moi, et c'est idéal. Les très très forts, jamais un professeur dira qu'il les aime beaucoup, après il préférera avoir une classe que de très forts, mais encore que la plupart diront « non, parce que je ne sers plus à rien ». Après, il y a ceux qui ne progressent jamais, quoi, qui sont toujours mauvais, donc ça, bon, on ne peut pas dire qu'on les déteste. Et puis alors, le pire, c'est... C'est ceux qui ont des mauvaises notes, mais qui se permettent des choses, qui ont une certaine liberté, même de remettre en question le discours du professeur. Ah, ça, ça fait peur, ça, voilà. Ben, je dis pas que moi, ça me fait pas la même chose, mais... Et donc, ces élèves-là qui travaillent le texte de Platon, je leur ai filé ça. J'avais donc l'intention, même au départ, qu'ils apprennent ça par cœur. Il y a eu des vacances scolaires de Pâques entre-temps. Bon, ils ont essayé, puis ils m'ont dit, on essaie, mais c'est compliqué, puis on comprend rien au truc. Et donc, voilà, j'ai aucun moment me dit, oui, est-ce qu'ils ont compris le texte ou ça. Non, j'en sais rien, mais c'était pas l'intention, quoi. J'avais pas l'intention qu'avec ce film, de créer réellement un certain réel, parce que c'est le monde matériel sensible. Ouais, ils ont appris Badiou, les jeunes se sont émancipés grâce au film. Enfin, non, j'ai pas du tout ça. Bon, de toute façon, après, on comprend toujours des choses, hein, mine de rien. Même quand on les dit, qu'on entend, il y a toujours une certaine compréhension de l'ordre singularité dans le rapport qu'on peut avoir à ce qu'on entend, même dans son non-écoute, quoi. Et donc, bon, au final, je me suis dit, bon, ils vont lire, quoi. Je projetais, on le voit, le film, je le montre bien. Donc, moi, je suis devant, comme ça, j'appuie sur le clavier. Alors, quand c'est vermillon, c'est pour Amanta, donc Maria Dolores. Quand c'est turquoise... C'est pour Glock, Martin, et hop, ils lisent. Donc, on suivait le cours normal, et après, quand Socrate, donc c'est moi. Mais on reprenait souvent, parce que c'était moi qui lisais mal, parce que la partie de Socrate est très longue, pas trop l'habitude. Et puis, donc, il y avait différentes sources d'images. Donc, oui, en effet, donc, ceux qui ne lisent pas avaient le téléphone portable. Il y avait ma caméra à côté de moi, fixe, avec laquelle je travaille. Et puis, j'ai fait appel à la photographe Marion Poussier, qui avait fait un gros travail, c'est ce qui l'a fait connaître, et ce en quoi, pourquoi elle est le plus connue, sur l'adolescence. Un travail qui s'appelle Un été. Et je vais filer donc un appareil photo, l'appareil photo que beaucoup de cinéastes utilisent, là, le 5D, je ne sais pas la pub, mais bon, ça parle beaucoup. Et donc pour elle, elle voulait qu'elle filme les corps, qu'elle se balade dans le champ, même si c'était dans le champ, c'est pas grave, mais elle se balade au milieu de cette mise en scène que j'avais créée. Donc il y a une idée un peu comme ça, un peu naïve de barricade, où j'ai renversé les tables et ils sont comme ça couchés sur les tables. Donc la classe est vraiment reconfigurée. Et donc voilà, c'est la plupart des plans finalement, c'est les siens, quoi. Les corps, quand la caméra bouge sur les visages, les corps, les jambes, les pieds, les... Voilà, bon, après, il y a un gros travail au montage. Donc, il y avait beaucoup de... le film a existé au bout de... Il y a eu un film au bout de 12 jours de montage, de 12 jours très intensifs, où c'est jour et nuit, quoi, où j'avais viré tout le monde chez moi, où je faisais que ça. Et je savais que je pouvais le faire que comme ça. Je n'avais jamais rien monté. Et j'avais besoin de faire que ça. Parce que je savais que c'est là que ça se créait. Donc, ça fait 2h20, d'ailleurs, au début. Mais il y avait vraiment quelque chose. Et sur ces 12 jours, il y en a 8 qui ont... je savais que ça allait être le plus dur. J'ai commencé par là. Ça m'a pris 8 jours pour faire cette partie que j'appelle, d'ailleurs, dans le film, épilogue. Vous savez que l'épilogue, ça peut un peu dérouter un peu. Il fait pas la moitié du film, mais le bon tiers du film. Mais parce que, voilà, bon, pour moi, c'est... Et on me reproche aussi, certains me disaient, Lussas, que peut-être ça aurait été bien de mettre ça au début, et ce mouvement de un peu plus de liberté, d'émancipation naturelle, les corps nus au début, mettre plus ça à la fin, mais Non, moi je pars du principe que l'objectif c'est, enfin que le si il y a pas de finalité, mais c'est que au départ il y a d'abord le corps et le langage, et puis après voilà il y a le concept, il y a l'idée de chercher de travailler, de voilà la dialectique, le travailler comme ça les idées, les faire correspondre les unes les autres, mettre en correspondance des choses comme ça. Donc c'est pour moi c'est inévitablement à la fin c'est là que ça se passe. Donc c'est aussi l'épilogue quoi, une affaire d'adolescent quoi, c'est, je l'appelle comme ça, une affaire d'adolescent, ça revient dans les textes parce que la philosophie est une affaire d'adolescent, lesquels abandonnent aux premières difficultés, quelles difficultés Diamanta, bon voilà.
Bah merci, à moins que tu aies quelques petites choses à rajouter sur le rapport entre effectivement toi en tant que professeur et eux élèves, la relation
Merci à vous. Non, je pense avoir dit pas mal de choses. Il faudrait qu'on me pose des questions précises, mais j'en ai eu. Non, mais je pense que bon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, quand j'ai fait ce film, j'étais plus prof, quoi. Bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est fou en même temps. C'est-à-dire que je le suis toujours, alors ils me connaissent que comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est même quand j'en ai revu un peu après, ils continuent à me voyer ou m'appeler Monsieur Krief. Et voilà, j'ai pas l'air appelez-moi Laurent d'un coup. Enfin, mais bon, donc oui, bien sûr, je suis toujours leur professeur, mais bon, il faut savoir que. Tous ceux avec qui je travaillais, je ne les avais pas comme élèves à ce moment-là, quoi. À part un, ouais, à part un, Dolly. Soit je les avais vus les années précédentes, soit un que je n'ai jamais eu. Et d'ailleurs, c'est vrai, je reconnais que le rapport que j'avais avec lui, même la présence qu'il y a dans le film, donc c'est Géraldo, celui qu'on voit à un moment dire du Rimbaud dans le tunnel, et au début, on a juste ses lèvres qui bougent et on n'entend pas le son. Moi, du coup, j'entends le son, parce que comme il articule bien et que je connais le texte par cœur, oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière, je suis une bête, un nègre, mais je puisse être sauvé, vous, maniaque féroce, avare. Vous êtes de faux nègres, magistrat tu es nègre, etc. Empereur tu es nègre. Bon. Voilà, donc lui, il a une. En effet, dans le film, il a une place un peu singulière, un peu à part. Mais bon, oui, cette question-là. De toute façon, c'est des questions qu'on se pose en permanence, quoi, quand on fait quelque chose comme ça, la question de l'éthique, du rapport, toujours cette vieille question de la distance. Mais bon, voilà, elle est là. Il ne faut pas non plus qu'il se culte là, justement, du rapport à la distance, le sensible. Donc, c'était l'objet du séminaire à l'USAS. Il y a un côté comme ça qui va vers quelque chose de fini qui me dérange. C'est-à-dire qu'en fait, quand je faisais la file d'attente, ma deuxième partie, les gens disaient oui, on y voit un peu plus clair, ou ça met un certain ordre. Je me disais, bah oui, mais c'est juste, c'est ça, en ça que ça me dérangeait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un peu trop, même chez Marie-José Monzin, de le cinéma, c'est ça, ça doit être ça. Je trouve que ça manque, c'était un peu lent, un peu mou, un peu des positions, bon, ils discutaient entre eux. C'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup entendre Badiou ou Rancière, quoi. Même si on dit que c'est très facile, Rancière, il dit souvent quand il est là que ça le dérange d'être là en tant que position de celui qui sait. Je l'ai vu sur la crise grecque, le philosophe, sa parole. Donc, il dit tout le temps, les sages ne savent pas. Alors, ça paraît un peu vide de sens, mais c'est pas vide. C'est extrêmement radical et extrêmement fort que tout ça, son travail, sa vie, ce soit ça tout le temps, parce que c'est pas juste quelque chose qui dit. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vrai là-dedans et de beaucoup plus enthousiasmant et qui crée beaucoup plus de capacité. Moi, je sais quand j'entends, ça me donne. Il y a une transmission d'enthousiasme comme ça qui se crée. Et bon, dans ce séminaire-là, avec toute l'intention qui est derrière, qui est très bonne, et moi-même, ça m'a pris plein de choses. Enfin, parce que du coup, on se met en opposition avec des choses dans lesquelles on n'est pas vraiment en accord, on y réfléchit, finalement, ça apporte beaucoup de choses. Donc, c'est en ça que finalement, c'est très bien ce séminaire qu'il y avait à l'USAS pour. Voilà, parce que je remercie aussi l'USAS, parce que nous sommes à l'USAS, et puis voilà. Mais oui, ce culte-là, peut-être un peu là, du sensible, du partage du sensible, ou une lecture du travail de Rancière, qui, à mon avis, au bout d'un moment, risque de le déranger, je ne vais pas trop me prononcer pour lui. Voilà, ce côté un peu, cette distance-là, bon, au bout d'un moment, finalement, on finit par faire tout le temps la même chose, et bon.
Alors, une toute dernière question, est-ce que tu travailles sur un nouveau film, j'imagine, ou de nouvelles images, hein, que tu peux nous en dire quelque chose ou...
Oui, donc c'est, je ne sais pas du tout où ça va aller, je ne sais pas si ce sera exactement le prochain, mais oui, j'ai commencé oui, sur l'école de manière plus précise, quoi, plus approfondie. Alors l'école est très présente, l'idée de l'école, mais je suis très en colère, je pense que ça se voit contre la colère de l'école telle qu'elle est, quoi, tout ce qu'elle crée et tout ce qu'elle ne crée pas. Tout ce qu'elle, parce que l'école, c'est quand même au départ, enfin, ça l'est tout le temps, c'est ce qu'on va dire, c'est... le lieu de l'émancipation où chacun, alors que bon, finalement, ça marche très bien pour les bons élèves, quoi. Mais là, vous avez ouvert une question, on peut en parler pendant 1000 ans. Parce que si c'est l'objet de mon deuxième fils, j'ai énormément à dire. Mais oui, c'est ça, pour les très bons élèves, c'est parfait. Mais après, pour certains, c'est très violent. Ça peut normer toute une vie, quoi. Avoir 8 en rédaction. Certains auront une force pour finalement faire de grandes choses. Donc on dit souvent, oui, moi j'étais nul à l'école, et regardez ce qu'il a fait, il était nul. Mais finalement, pour la grande majorité, il y a quelque chose qui norme énormément. Donc sans parler des orientations, donc il ne s'agira pas encore de dire ce qu'elle doit être, l'école. Genre, voilà, c'est pas un programme pour la prochaine réforme sur l'éducation, quoi. Mais donc oui, il y a des choses. Voilà. Là, je renvoie aussi à un livre, en tout cas, s'il y a des enseignants qui écoutent. Mais inévitablement après l'école de Julie Roux, justement la question le maître ignorant entier est très présent dedans, mais qui est un livre vraiment qui est pour le coup porteur d'enthousiasme et que j'aimerais rencontrer si elle écoute d'ailleurs c'est pour mon film, j'aimerais rencontrer Julie Roux, bon, bien d'autres, mais voilà.
Et bien merci Laurent Krief.
Merci.
Mais merci, super.